Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
L'urbanisme, l'aménagement du territoire sont des notions qui intéressent citoyens, politiques, techniciens de la BioVallée. À toutes les questions qu'on peut se poser autour du développement urbanisme pour ces prochaines années, comment répondre à la demande croissante en logement tout en limitant pression sur le foncier, l'environnement et la spéculation, comment renforcer encore la planification à l'échelle communale. À toutes ces questions, plusieurs élus et techniciens sont en charge d'y réfléchir. Michel Gascoin, responsable service aux communes, chargé de l'habitat, de l'urbanisme. Isabelle Vincent, responsable de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à la CCVD, dans le cadre aussi de BioVallée. Elle est avec nous dans les studios. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous êtes en charge de faire comprendre, développer de nouveaux projets sur la vallée, sur la BioVallée. Est-ce que c'est difficile au quotidien ?
Oui, alors du coup, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau intercommunautaire, où la compétence aujourd'hui est essentiellement au niveau de l'habitat. Par contre, pour l'urbanisme, il s'agit de conseils en termes de planification, donc d'élaboration de documents d'urbanisme pour les petites communes. Par rapport au grand projet Rhône-Alpes BioVallée, là, la mission est la définition d'un éco-territoire de référence et donc un travail de prospective pour travailler tout à la fois avec les élus, mais aussi les habitants, les acteurs, les associations, pour essayer de se poser la question de prévoir ce que sera le territoire en 2040. Donc une étude de définition qui nous permet d'arriver vers la BioVallée 2040.
Un terrain d'exception, on va dire, pour développer la démocratie participative. Un terrain, j'imagine aussi, vous devez mettre en avant vos compétences de pacificatrice, certainement parfois, quand ce genre de débat débouche sur un enflammement général ou des inquiétudes aussi, souvent, il faut être rassurante.
Oui, et il faut être rassurante, donc bien penser à tous les différents acteurs. Donc ce travail qui a démarré maintenant il y a à peu près un an et demi, donc nous avons déjà été accompagnés par un bureau d'études qui nous a aidés à mettre en place des scénarios pour voir comment notre territoire pouvait évoluer suivant qu'on agisse ou pas, aussi bien au niveau politique qu'au niveau associatif. Donc c'est évident aussi que la dimension participative a été très importante. On a travaillé en étroite collaboration avec le CLD.
Conseil local de développement de la Vallée de la Drôme.
Avec tous les acteurs habituels et ceux, donc c'est ça peut-être la plus grande difficulté, sur les différentes thématiques. Puisque bien sûr, quand on parle de la définition d'un éco-territoire, la planification est un des premiers thèmes à aborder. Mais il faut aussi travailler sur l'agriculture, sur le développement de l'économie, sur l'économie sociale et solidaire, notamment par exemple sur l'accueil de l'enfance, qui est une thématique en ce moment qui est d'actualité. Et puis, enfin, tout ça à travers le zoom de l'énergie, puisque l'engagement premier dans la BioVallée, c'est bien de réduire notre consommation énergétique sur l'ensemble du territoire.
Alors, on va plonger dans un projet de la BioVallée. C'était le reclassement du site SNCF qui était installé à Eure. On va peut-être décrire un petit peu ce que c'était que ce site au départ.
Alors là, donc, il s'agit de l'ancienne base TGV, qui s'est vu implanter sur la commune de Eure. Donc, à l'époque, on ne parlait pas encore de BioVallée. c'est la SNCF lorsqu'elle a mis en place la ligne TGV Méditerranée. Donc TGV Grande Vitesse Paris-Marseille a fait le choix de cette implantation. Donc la commune de Heure s'est vue installer sur son territoire une base TGV avec tout ce que ça veut dire, hein, des milliers de camions, du terrassement, des tonnes de gravats. Donc j'ai pas les chiffres en tête, moi j'étais pas encore là à l'époque. Et donc l'enjeu à la fin des travaux, lorsque le TGV a été opérationnel, ça a été de rétrocéder ces terrains à la commune. Et là est venue à l'idée du président de dire, ben moi, contrairement à d'autres territoires qui ont laissé les terrains un petit peu en friche et que les terrains sont aujourd'hui grillagés et puis laissés dans un coin, je vais mettre en place un éco-site. Donc c'était vraiment les premières années, hein, donc ça remonte à peu près une quinzaine d'années, où on commençait à exprimer ces mots d'éco-site.
Alors, ça signifiait quoi, finalement?
Alors, un écosite, qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à un écoquartier, un écosite a une dimension un petit peu plus large. Alors, déjà, bien sûr, on retrouve hein, tout ce que je viens de dire sur les aménagements durables, respectueux de l'environnement, de la gestion des eaux, de la consommation foncière, tout ça, bien sûr. Mais dans le terme écosite, on trouve la dimension mixité. C'est-à-dire que l'enjeu est d'y implanter en plus des activités économiques, puisque là, c'est un écosite intercommunautaire, puisque c'est une zone d'activité, mais de mixer cette zone avec de l'habitat et de la culture, des services, puisqu'il y a des bureaux pour les associations, et puis un restaurant aussi, hein, qui est l'ancien restaurant SNCF, qui est toujours sur le site, le restaurant Montpaïs.
Le développement de cet écosite se poursuit.
Oui, donc cette année a été une année importante pour l'écosite, puisque l'inauguration récente de campus, donc une nouvelle salle de conférence, et la finalisation de tous les aménagements, réseaux, voiries, etc., qui permettent vraiment d'avoir une vision de l'ensemble de cet écosite.
Depuis 6 ans, vous avez aussi pour mission de poursuivre le développement de cet écosite. Alors j'imagine que c'est un petit peu dans cette idée qu'on aborde le développement d'un écosite.
L'écosite, hein, je le répète, a une vocation économique. Donc au niveau de la CCVD, c'est le service économie qui a en charge l'aménagement de cet écosite. Hein. Didier Lopez, qui est responsable de ce service, pourrait en parler plus en détail. Moi, j'ai vraiment une toute petite mission qui m'a été confiée, c'est la partie habitat, puisque c'est le service dont je m'occupe. Et pourquoi réaliser de l'habitat sur cet écosite? Donc là, ça a été aussi une volonté des élus, puisque sur l'écosite, donc ça, je pense que tous les auditeurs connaissent, nous trouvons le Transexpress, puisqu'il y a eu pour volonté d'implanter la base des arts. Et que donc au niveau habitat et au niveau utilisation de ce site par tout le monde et pas uniquement par les entreprises du territoire, de dire est-ce qu'il ne serait pas intéressant de créer des cheminements piétons qui permettraient lors des spectacles du Transexpress de permettre aux habitants de la vallée de la Drôme de se promener pour aller jusqu'au spectacle, et ce tout en ayant laissé la voiture un petit peu à l'extérieur de l'écosite. Donc l'idée est venue de se dire ce qui serait intéressant, c'est de réaliser des logements d'artistes, mais des logements d'artistes avec un atelier d'artistes, atelier qui permettrait aux artistes à la fois de créer, mais aussi d'exposer, donc d'avoir une vitrine qui pourrait être ouverte les jours de spectacle et voire même les après-midi. Hein. C'était pas uniquement axé sur le Transexpress, mais puisqu'il y a aussi des formations, des temps de formation plus ou moins longs, hein, organisés sur le forum, de dire pourquoi pas animer le site avec cette vocation culturelle affirmée. Donc là, la difficulté, ça a été après de trouver un opérateur, puisque c'était quelque chose de complètement nouveau. On sait faire des logements, on sait faire des ateliers, mais on sait pas faire forcément en même temps des logements avec ateliers. Et ben voilà, ça aussi, ça a été fait. Ils ont été livrés à Noël l'année dernière. Et donc,
avec un peu de retard, parce que je crois que c'était annoncé
septembre. Ouais, non, ça s'est très bien passé. Et depuis, il y a 3 familles d'artistes sur l'écosite.
Qu'on a pu déjà rencontrer lors de l'inauguration de l'écosite, ouais. C'est devant la balade des arts, je crois que c'est ça.
Voilà, c'est ça, la promenade des arts.
La promenade.
Et tout ça me fait penser au point peut-être qu'on a le moins évoqué ce matin, c'est de dire que dans tout ce qui est éco-quartier et encore plus éco-site, le troisième volet qui est le volet social est aussi une dimension très importante. Hein. On a parlé environnement, on a parlé économie, mais l'aspect social est vraiment l'enjeu le plus important. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise de tels aménagements, il ne s'agit pas du tout de faire des aménagements sous cloche, parfaits, qu'on peut mettre dans les revues, juste en parler. L'important, c'est bien de les vivre, que donc les gens qui y sont au quotidien, aussi bien les entreprises que les artistes, que les habitants y vivent, mais que aussi d'autres gens des territoires environnants y viennent et y passent du bon temps et connaissent les entreprises, les artistes qui sont implantés et que l'on crée du lien social. Ça, c'est vraiment le plus important peut-être de tous les enjeux au niveau du développement durable.
C'est un petit peu le discours qu'on vous renvoie, cette inquiétude justement de voir développer des choses qui pourraient paraître être en décalage par rapport à la réalité de chacun. Mmh. C'est une inquiétude
pas une inquiétude, parce qu'au contraire, tout le monde est toujours très content d'être innovant, de tirer vers le haut les aménagements. Donc les élus sont très demandeurs, les habitants aussi, nous... Je le répète, on a vraiment un territoire où il y a des gens militants, donc ça, tout le monde est très demandeur. L'inquiétude après au niveau technique, c'est justement de faire des choses pas connectées entre elles et d'avoir des aménagements super merveilleux, éco, tout ce qu'on voudra, mais rien entre deux. Alors que là, l'enjeu au niveau aménagement du territoire porté par les élus, c'est de tisser et qu'on n'oublie pas l'existant, hein, comme je disais tout à l'heure par rapport à la réhabilitation par exemple, qu'on fasse du nouveau dans de nouvelles perspectives, mais que tout cela soit en lien. Et pareil pour les populations, que les populations âgées, les jeunes, que tout le monde se mélange et des lieux de rencontre et des lieux d'échange.
C'est pour ça que je disais que vous étiez un petit peu comme ces personnes qui travaillaient dans les forêts. C'est vrai qu'il faut donner du temps au temps. C'est un petit peu la philosophie de votre mission.
Tout à fait, surtout que du coup, pour parler cette fois-ci plutôt des usagers, des habitants, avec tous ces projets ambitieux, on change quand même des habitudes. L'énergie, c'est assez facile, hein. Maintenant, on en parle tous les jours, tout le monde est d'accord puisque ça réduit sa facture. Mais lorsqu'on parle d'enlever la voiture, ça, c'est peut-être moins évident pour tout le monde suivant où on habite. Voilà, aussi habiter des maisons avec moins de terrain autour, des maisons accolées, la densité, donc tout ça aussi, hein, c'est des nouvelles façons d'habiter. Ça passe par des nouvelles formes d'architecture. Il faut laisser du temps au temps et aux personnes le temps de s'habituer.
Alors, on va toujours rester dans la dimension du temps. Quelles sont les perspectives à ces logements d'artistes?
Alors, les perspectives, c'est d'arriver à mettre en place l'objectif de départ, de réaliser une vraie promenade. Hein. Aujourd'hui, on n'en a que trois. Donc, il se trouve que la demande a été forte et je dirais même depuis qu'il y a les trois artistes, puisqu'ils nous servent aussi de... promoteurs de commerciaux, je dirais. On a de plus en plus de demandes, donc maintenant il y a une liste d'attente. Donc les élus ont effectivement pour objectif de terminer cette promenade et donc d'en réaliser, alors le chiffre n'est pas encore très précis, on dit 7, on dit 10, je ne sais pas, mais de se poser la question aussi de voir quels seront les futurs logements. Ça ne sera pas forcément les trois existants qui vont être reproduits. Peut-être que l'offre sera un petit peu différente avec des tailles de logements différentes. Enfin, je ne sais pas, tout ça n'est pas encore abouti.
Au niveau des inspirations qu'il nous faut avoir si on veut développer des choses un petit peu innovantes, un moment fort qui a égrené notre calendrier au mois de septembre, ça a été les rencontres de territoire, où pas mal de gens sont venus parler de ce qui se passait sur leur ville, sur leur communauté de communes. Vous intéressez-vous aussi à ce qui se passe un petit peu ailleurs? Vous avez un regard un petit peu concentré sur ce qui pourrait éventuellement s'installer dans les dossiers prochains de la Biovallée?
Donc là, c'était les rencontres des territoires énergie positive,
oui,
RNT Post en septembre. Ben oui, hein, tout à fait, nous, sans arrêt, Pareil, on est en connexion avec d'autres territoires pour voir un petit peu ben, où ils en sont, comment y mettre en œuvre. Donc je pense que les objectifs aujourd'hui sont tous plus ou moins partagés, tous les mêmes. Maintenant, c'est comment on les met en place sur nos territoires avec les difficultés que chacun rencontre. Donc c'est un enrichissement quotidien de profiter des expériences des voisins. Ça, tout le monde est très demandeur. On a des réseaux et donc le réseau national des territoires à énergie positive est vraiment une bonne filière.
Et vous voyez des idées ou qui n'existent pas encore sur la vallée de la Drôme et qui pourraient, pourquoi pas, être en totale cohérence avec notre territoire ?
Notre travail pour cette année 2014, hein, puisque là, tout ce qu'on a dit sur le Biovallée 2040, on en est arrivé en décembre à faire valider une stratégie. Et maintenant, notre objectif est de définir comment cette stratégie va se décliner en action. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de vision très précise, hein, mais ce passage à l'action va être aussi un moment charnière important. Ce, bien sûr, sur la Biovallée, donc sur l'ensemble des EPCI du territoire, et de voir comment l'énergie peut prendre sa place et que tous les objectifs déclinés dans le protocole Biovallée vont pouvoir se retrouver à travers une gestion durable de l'agriculture, à travers l'aménagement du territoire, à travers les écoquartiers qui arrivent. Et donc là, on va devenir, je dirais, plus concret, puisque plan d'action, ça va vouloir dire comment on met en place et avec un planning dans le temps et comment ça va se décliner sur le territoire. Aujourd'hui, on en est encore un petit peu trop à la phase stratégie.
Bien, merci Madame Vincent. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que vous êtes responsable de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire pour la communauté de communes de la vallée de la Drôme.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Biotope. Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Jamila Hanafi vit et travaille dans la Drôme. Elle fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Valence et choisit la sculpture comme champ d'investigation et moyen d'expression. Elle maîtrise plusieurs techniques et modes d'expression, la terre, le bronze, le dessin, la peinture, la vidéo, les installations et le land art. C'est dans l'écosite d'Eure, dans le projet de ces trois logements ateliers, que j'ai rencontré Jamila Hanafi, qui nous présente sa nouvelle façon de travailler dans ces nouveaux quartiers, le long de la balade des arts.
À l'image d'Épinal, du plasticien, c'est chez lui, dans son atelier, en train de bosser 12 heures par jour.
Ouais, pour essayer non. Non, moi c'est souvent dans ma cuisine que ça se passe, mon atelier c'est mes cuisines. Sérieux, hein, j'ai fait des trucs dans ma cuisine, mais quand j'y pense, je me dis, mais comment j'ai fait ? Des plâtres, des moulages, mais même des choses de grande dimension. Hein. Ça s'appelle la promenade des arts, là, devant. On s'entend bien, là, avec les voisins qu'on se connaissait pas avant. Et je trouve que on s'entend vraiment bien. tout en restant...
Vous avez chacun votre atelier.
Voilà, notre espace de vie, notre espace de travail, mais on sait se rencontrer, je trouve.
Donc l'objet est une réussite, finalement.
Ouais, globalement, oui. C'est plus en termes d'aménagement, de besoins, où là, ça serait bien qu'il y ait ça, là, ça serait bien qu'il y ait des box pour les vélos, des si pour ça... Un parc pour les enfants. Enfin, quand on voit les gamins jouer là-bas dans la grande flaque, on dit le terrain de jeu, il est là, c'est très bien.
Tu vois ça plutôt de bon augure qu'il y ait d'autres logements qui...
Oui, bah oui, oui. Oui. Mais ça intéresse... moi, je vois, j'ai des copains artistes qui me questionnent, qui me demandent, qui viennent voir, que ça intéresse, bien sûr. Mmh. Ah, c'est vachement bien. Non, moi, quand je vois comment on a pu chercher, pas trouver ce qui... Surtout en termes d'atelier, quoi. On peut dire que j'ai galéré, quoi, pour trouver un local de travail qui descend, qui soit pas hors de prix, qui corresponde à... Ouais, enfin, là, c'est... On s'est livré en brut, hein, mais le local, l'atelier, pour moi, c'est parfait. Alors maintenant, à moi de l'aménager, de séparer... avoir à la fois un espace de stockage, un espace de travail, un espace à partager avec Stéphane, mon compagnon. Voilà. Ça, c'est très bien, vraiment, vraiment. Je veux dire, c'est pas mal, hein, 60 mètres carrés, je pense. Ouais, et puis ça monte à 4,50 m de plafond, donc il y a de quoi...
Il y a de quoi faire du volume.
Ouais. Il est volumineux, il est lumineux. Bon, il n'est pas isolé. Ouais. Mais ça, on va trouver une solution.
Donc, du coup, plein d'artistes d'ici pas longtemps.
Ouais, moi je pense.
Je pense que vous serez peut-être amenés à travailler ensemble.
Ah, je sais pas. Ça c'est après. Ça dépend parce que on a à la fois des artistes, et puis des artisans d'art. Donc après, comment chacun utilise son espace de travail, son atelier. Chacun le gère à sa façon, quoi. Ouais. Il y a pas de.
Tu peux y faire ta boutique.
Et bien en fait, l'idée de la vitrine, la grande vitrine face à la promenade des arts, je dis la vitrine parce qu'il s'agit d'une grande baie vitrée, ouais. et c'est vrai qu'on peut avoir sur cette vitrine un espace d'exposition qui peut être un espace galerie et un espace marchand dans une perspective économique, je veux dire. Mmh. Et ça, c'est bien, c'est important normal et évident de penser à ça. Il ne faut pas laisser passer ça. C'est vraiment important. En fait, on essuie les plâtres, on ne sait pas trop. Hein.
Vous êtes trop premier.
Mais je pense que c'était l'idée, hein, d'avoir cette promenade où les gens se promènent, donc tout l'espace, tout l'écocité piéton, et puis de pouvoir aménager en tout cas cette vitrine de manière à... Vitrine et devant, parce qu'il y a un espace devant qui n'est pas petit. Pour les portes ouvertes, on a tous sorti des objets, des choses. C'était bien. Il y a eu un peu de monde. Je pense qu'il aurait pu y avoir plus de monde. Et la gare à coulisses en face, ils ont préparé. Il y avait une animation, il y avait les tambours. C'était vraiment bien. Et puis nous, on avait sorti des pièces, des choses. Donc c'est possible de rendre de dynamique cet espace. Puis on en a l'envie, en tout cas... On aimerait bien faire, déjà peut-être se monter en association, et proposer des événements. Bon, pour l'instant, c'est pour parler. Mmh, hein, mmh.
Voilà. Tu vois ces petites peintures là ?
Ouais.
Moi, j'étais là-dedans. Ces derniers mois, j'ai peint. Ça fait marrant parce que je peins pas tout le temps. Hein, jamais en fait.
C'est le côté hivernal. Souvent, on peut peindre au chaud.
C'est le cadeau de Noël. On peut peindre au chaud et dans la cuisine. Et c'était une vraie cuisine et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai revisité toute la, par exemple, là, le thème de la nature morte, peinture. Et j'ai découvert des tas de peintres. Complètement fabuleux. Et j'avais l'impression de découvrir la peinture. Je trouvais ça... Et je me suis même dit à un moment donné, mais c'est peintre que tu aurais dû faire. C'est marrant, je me suis dit ça avait comme une lueur. Puis bon, c'est difficile la peinture. Il
faudrait une deuxième vie.
Ouais, une deuxième vie. Après, ça me plaît, j'aime beaucoup... Du coup, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à peindre. Ouais. Donc là, par exemple, j'étais sur des peintures du Caravage. Donc, tous les clairs obscurs, travail de la lumière, je trouvais ça passionnant. C'est passionnant. Le thème de la nature morte, ça aussi. Et mais c'est pour ça que j'ai choisi les peintres anciens. Ça m'intéressait de comprendre. Donc il y a des copies et il y a des inspirations. Donc ça m'intéressait de voir comment il a traduit ce fond, comment il a traduit la texture de ce fruit, comment et de chercher. Alors c'est une véritable cuisine en fait. Et ça m'a bien plu. C'est pas comme dans ma pratique de dessin que j'ai habituellement. Mmh.
Là, il y a plus de contact avec une matière, une chimie.
Ouais, puis les pigments, la couleur aussi. L'histoire de la couleur, de la lumière, ouais. C'est ça, je trouvais ça vibratoire.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.